Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 14 décembre 2022 avec vous Eric Manilakiza. Voici d'abord le sommaire. Sommet des dirigeants africains à Washington, le président Biden plaide en faveur d'un siège africain au Conseil de sécurité de l'ONU et d'une représentation formelle de l'Union africaine au G20. En exclusivité dans cette édition, le président Bazoum du Niger.
La violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral.
Le président de l'Union des Comores est également à Washington.
Mais je dis que ce n'est pas vrai. J'en ai discuté avec beaucoup d'autorités américaines. Il y a eu des rapports qui ont été faits et qui n'ont pas été fondés. Donc nous, on a été victimes de ces rapports-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup à faire.
L'opposition au Tchad est également représentée. Succès Mastra, le président des transformateurs.
Jamais, ni moi, ni mon peuple, ne pas accepter la dynastie au Tchad.
En RDC, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national en hommage aux 120 personnes péries à Kinshasa dans des inondations. Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a atteint un nouveau record en 2022, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié ce mercredi. À la croisée des rêves, la France de Kylian Mbappé tenante du titre, et le Maroc porté par un continent et une marée rouge de supporters confrontent leur destin en demi-finale du Mondial 2022 avec en jeu la finale contre l'Argentine de Lionel Messi. Après 31 minutes de jeu, la France mène un but à 0. On en parle dans un instant. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains en sommet de 3 jours dans la capitale américaine. Le président Biden, qui ne s'est pas encore rendu en Afrique subsaharienne depuis le début de son mandat, a pris la parole devant le sommet. Je suis en ligne avec notre envoyé spécial au Convention Center, ici à Washington, où se déroule ce sommet, Abdrahman Dia. Abdrahman, avant la prise de parole de Biden, il y a eu ce forum des entreprises.
Effectivement, ce forum des affaires des entreprises se poursuit d'ailleurs au deuxième jour du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Et comme vous l'avez dit, l'accent est mis aujourd'hui sur l'investissement et les affaires avec ce forum des entreprises. Plusieurs compagnies américaines comme Cisco, spécialisées dans la technologie, et également la firme pharmaceutique Pfizer, ont annoncé des accords déjà avec certains pays africains. La Zambie est un des bénéficiaires d'accords qui se poursuivent. Ils sont annoncés au fil du temps. Et le premier ministre ivoirien Patrick Achi a appelé les entreprises américaines à venir investir dans son pays. Et c'est certainement l'appel qu'on entendra de plusieurs d'autres chefs d'État et de gouvernement durant ce sommet. Alors, un des panels les plus en vue ce mercredi est consacré à l'initiative de l'administration Biden appelée Prosper Africa, dont l'objectif est de renforcer et de dynamiser l'engagement des États-Unis en faveur des investissements privés et publics en Afrique. L'USAID, l'Agence américaine pour le développement international et 17 autres agences ont donc pour but de favoriser ces investissements chiffrés à plusieurs milliards de dollars pour les années à venir. Un peu plus donc pour vous dire, Eric, la diplomatie économique est à l'œuvre aujourd'hui et qui s'inscrit en droite ligne de cette doctrine qu'on appelle « trade, not aid » ou « commerce et non l'aide » comme disait, disons, Bill Clinton à l'époque. Alors, sachant surtout que l'avenir de l'AGOA est incertain après 2025, Prosper Africa certainement sera le plus grand outil permettant aux États-Unis d'asseoir leur présence économique sur le continent, Eric.
Merci. Abdou pour toutes ces précisions. Je vous le disais, le président Joe Biden a pris la parole il y a quelques minutes. Il plaide notamment en faveur d'un rôle accru pour l'Afrique sur la scène internationale avec un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et pour que l'Union africaine soit formellement représentée au G20. Cette nouvelle stratégie avait été dévoilée l'été dernier, annonçant une refonte de la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne pour y contrer la présence chinoise et russe. Je vous propose d'écouter cet extrait de son discours.
J'ai mis l'accent sur le succès partagé et les opportunités. Parce que quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Et très franchement, le monde entier réussit.
Voilà le président des États-Unis, Joe Biden, devant le sommet des dirigeants africains ici à Washington. En marge de ce sommet, quelques Africains ont des doléances à adresser au président américain. Suivez.
Mon message aux États-Unis d'Amérique et au président Biden est de travailler en réponse à la crise climatique. Par ce message, nous appelons tous les dirigeants à investir beaucoup dans l'adaptation de l'énergie durable qui peut être utilisée pour la cuisson propre, en particulier dans les pays africains où les gens utilisent principalement l'énergie de la biomasse. Nous les appelons à tous investir beaucoup dans la technologie.
Mon message aux États-Unis et au président Biden est de travailler dans des domaines qui renforcent davantage les relations africaines des États-Unis, en accordant la priorité aux intérêts continentaux de l'Afrique.
Le message que j'ai pour les États-Unis et le président Biden est d'avoir de plus en plus d'initiatives pour les pays d'Afrique du Nord et de renforcer leurs relations, notamment en ce qui concerne les questions climatiques et sanitaires. Nous voulons également que les États-Unis aident à la reprise post-pandémique du Zimbabwe afin que davantage de vaccins continuent d'être déployés, car selon certains chercheurs, il y aura une pénurie de vaccins d'ici 2023.
My message to President Biden and the United States at large is that
Mon message au président Biden et aux États-Unis en général est le suivant. En tant que Rwandais et Africains, nous nous félicitons du partenariat entre les États-Unis et les pays africains. L'administration Biden doit s'efforcer de faire en sorte que le partenariat entre les États-Unis et les Africains soit fondé sur la compréhension mutuelle, le respect des valeurs et des cultures des États-Unis et des États africains, bien sûr.
Le message que j'ai pour les États-Unis et pour le président Joe Biden, c'est qu'ils doivent assumer la responsabilité des rôles qu'ils ont joué dans des pays en guerre et des pays en proie à des troubles comme la Palestine, la Syrie et l'Irak.
Les États-Unis doivent faire tout leur possible pour s'assurer que les choses qui nous arrivent directement ou indirectement sont des choses auxquelles nous participons de manière significative, en nous plaçant au centre de chaque action ou décision qu'ils prennent, en particulier les problèmes, les défis auxquels le monde est confronté, comme la crise humanitaire, l'insécurité, la nourriture, la santé et tout le reste. Même le changement climatique, je pense que ce sont des choses auxquelles nous contribuons directement ou indirectement. Donc, ils doivent s'assurer que nous faisons vraiment quelque chose à ce sujet et que nous nous y engageons de manière significative.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 10 civils ont été tués par des rebelles ADF dans le nord-est de la RDC. C'était hier, lors d'une incursion menée dans le village d'Ondalia, un territoire d'Iromo dans le sud de la province de l'Ituri. Le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été transféré de La Haye vers la Belgique, a déclaré ce mercredi la Cour pénale internationale. Au moins 166 personnes ont été tuées, 237 autres blessées en 4 mois dans des affrontements entre milices armées dans le nord-ouest du Soudan du Sud, a affirmé ce mercredi le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU. Le journal de la Coupe du Monde, 39 minutes de jeu entre la France et le Maroc. Je suis en ligne avec Amédine Si. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix d'Afrique.
Vous êtes cousin des Marocains. Pour l'instant, la muraille marocaine a lâché, la France mène.
Tout à fait. Le Maroc a démarré le match de la plus mauvaise des manières en encaissant un but matinal marqué par Hernandez. Il faut dire que ça a été un coup très difficile hein, pour les Marocains. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Marocains ont perdu Saïd sur blessure qui est sorti à la 22e minute. Avec ce but matinal, les poulains de Didier Deschamps vont maintenant... parce que son plan fonctionne à merveille, les Marocains sont obligés d'attaquer et les Français en profitent et ils ont failli marquer quand même ce deuxième but, ce but du chaos, mais heureusement que ce n'est pas passé. Mais il y a eu aussi une réaction hein, marocaine avec cette frappe de Inaïd repoussée par Lloris. En tout cas, le Maroc va changer de fusil d'épaule puisqu'il faut attaquer. Et en ce moment, ils ont la possession, mais il faut faire sauter le verrou français et ils n'arrivent pas à le faire pour le moment. En tout cas, l'exploit reste possible jusqu'à présent, mais c'est mal parti pour le moment, Eric.
Mal parti pour le moment, mais on voit que les Marocains essayent de pousser pour revenir au score et ils en ont la capacité.
Oui, ils ont les moyens, vous avez vu ce que Boufal est en train de faire. Boufal, quand il a le ballon, il met ses adversaires dans le vent. Il y a également JS. Mais le problème, c'est que les Français ont une défense compacte. Hein. Ce qui faisait la force du Maroc durant les autres matchs, maintenant, c'est l'atout des Français. Puisqu'ils défendent en groupe, ils coupent tous les trajectoires et ils sont en train de réussir un bon match malgré l'absence de Upamecano.
Oui, malgré l'absence de Upamecano, quand on analyse cette rencontre après 41 minutes de jeu à Médine, on voit que la France est aussi prudente. C'est un Maroc qui fait peur.
Oui, c'est normal puisque les choses ont changé avec ce but. C'est ce but maintenant qui a changé tout. Les plans de Didier Deschamps fonctionnent à merveille avec ce but venu maintenant là-bas, puisque les Marocains sont obligés. Ils ne peuvent pas défendre. On ne peut pas te mener un but à zéro et tu restes dans ton camp. Tu es obligé de jouer. Et depuis le début de cette compétition, et c'est même pas depuis le début de cette compétition, depuis 2018, avec l'avènement de certains Mbappé, la France joue avec un bloc bas pour permettre à un certain Mbappé d'exploiter sa vitesse de course. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que Mbappé n'est pas encore dans son jour, il n'a encore rien fait, il est bien muselé par Hakimi, mais le plan aujourd'hui avec ce but, c'est ça, laisser le ballon au Marocain jouer et procéder par les cornes, c'est ce que la France va faire, et avec un Dembélé aussi du côté droit, un Mbappé de l'autre côté, et un Tchouaméni, hein, Tchouaméni qui est en train de faire un match extraordinaire, la France est en train de gérer, puisque c'est un match à résultat immédiat. Mais moi, je crois dur comme fer que le Maroc peut revenir dans cette rencontre. L'essentiel, c'est de pousser pour marquer un but, remettre les pendules à l'heure, et ça ira, Eric.
À Médine, les Marocains étaient avertis, parce qu'on sait que les buts français viennent souvent de Griezmann. C'est lui qui délivre ce ballon dans la surface de réparation marocaine.
Oui, Griezmann, il faut le dire, on l'a fait reculer d'un cran depuis ce début de cette Coupe du Monde et il est en train de faire un très bon tournoi. Aujourd'hui, il a eu quand même la lucidité de délivrer une passe, mais je pense que ce qui faisait la force des Marocains avec une défense vraiment stable, aujourd'hui, ils sont passés un pas à côté parce que si on regarde ce but, on pouvait quand même l'éviter, mais c'est comme ça. En football, il faut commettre des erreurs de temps en temps. Et l'essentiel, c'est de réagir et de bien réagir.
Mais ce n'est pas encore le moment d'être pessimiste.
Non. Loin de là, un match n'est pas gagné. Un match dure 90 minutes, même durant les temps additionnels. L'essentiel, c'est de ne pas se faire distancer, de ne pas encaisser ce deuxième but qui peut être un but du chaos. Si on n'en encaisse pas, on peut quand même égaliser.
Oui, et le risque qui vient de faire un sauvetage extraordinaire, le Maroc qui allait ouvrir le score.
Oui, tu as vu, à force d'attaquer sur nous, les balles arrêtées, on le sait, les Marocains sont excellents avec ces balles arrêtées. L'essentiel, c'est d'attaquer encore.
Merci à Médine. Merci à Médine pour toutes ces précisions. On continue de suivre cette rencontre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous suivez cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manelakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. 49 chefs d'État et de gouvernement africains sont à Washington pour le deuxième sommet Afrique-États-Unis. Idriss Fall a eu un entretien exclusif avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui exprime ici ses attentes pour son pays.
Le Niger attend de ce sommet que les États-Unis écoutent la voix de l'Afrique, qu'ils prennent plus amplement connaissance des problèmes auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous espérons leur écoute et leur engagement en vue de retrouver des solutions. Nous avons la question sécuritaire au Sahel, sur laquelle nous proposons de sensibiliser les autorités américaines. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre et avec lesquels j'ai eu des échanges très utiles pour l'avenir. Par exemple, nous sommes confrontés au phénomène du changement climatique avec tous ses effets désastreux sur nos économies, sur nos modes de vie. Je me suis appliqué à expliquer à mes interlocuteurs que la violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral. Nous assistons à une raréfaction des ressources naturelles et une grande compétition sur ces ressources-là. Là également, les États-Unis doivent pouvoir nous entendre pour notamment nous soutenir.
Est-ce qu'il y a eu des promesses au moins?
Non, il n'y a pas eu de promesses. Tous les entretiens que j'ai eus ne sont pas de nature à donner lieu à des promesses. Ils sont plutôt dans une phase d'écoute.
Vous sortez de la COP27 et vous aviez plaidé aussi la même cause.
Oui, tout à fait. Voilà, donc nous réitérons ce que nous avons dit à la COP27. Nous disons au gouvernement américain que nous avons besoin de projets d'infrastructures, surtout dans le domaine du chemin de fer, des routes.
Pour aller directement dans la lutte contre le terrorisme, j'ai l'impression que les États-Unis sont déjà présents au Niger.
Oui, tout à fait.
À quel niveau, quelle l'importance de la présence militaire américaine?
Les Américains interviennent dans la formation de nos forces spéciales, dans leur équipement. Ils interviennent beaucoup dans leur renseignement parce qu'ils ont des drones, justement. Et ils coopèrent surtout avec les Français dans le domaine du renseignement et nos services coopèrent avec les uns et les autres. À Troyes, je pense que nous avons une très belle coordination qui est très utile, qui est efficace, vraiment utile comme je viens de le dire. Les Américains, hier seulement, ils nous ont remis un avion C-130 de transport de troupes. Il y a de cela une année, ils nous en avaient donné un autre. Ce sont des avions qui coûtent extrêmement cher et qui sont très utiles. Nous n'aurions pas pu les acheter nous-mêmes. L'intervention des États-Unis dans notre combat contre le terrorisme est très importante, elle est très utile et efficace.
C'était le président Bazoum du Niger au micro de Idriss Fall. Le président Azali Assoumani de l'Union des Comores se trouve également à Washington. En marge de ce sommet USA-Afrique, il déclare que les rapports sur les abus des droits de l'homme dans son pays ne sont pas fondés et revient également sur l'arrestation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. C'est dans une interview accordée à la VOA au micro de Marius Muhunga.
Ce sommet, il est arrivé à point nommé, hein, puisqu'effectivement, les États-Unis, c'est une puissance, la première puissance du monde. Effectivement, le fait de collaborer, de travailler avec cette puissance-là, je pense que c'est pour l'intérêt de tous les pays, bien sûr, en Afrique, Donc nous, c'est quand même venu à point nommé ce sommet. Donc je pense qu'on va pouvoir capitaliser et puis tirer toutes les leçons qui seront au profit de nos pays.
Le département d'État américain a fait état des violations des droits humains aux Comores, votre pays, et de l'impunité par rapport justement à ces violations. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président?
Ben, je dis que ce n'est pas vrai. J'en ai discuté avec beaucoup d'autorités américaines. Il y a eu des rapports qui ont été faits, qui n'ont pas été fondés, qui ont été faits d'un protocole. Donc nous, on a été victimes de ces rapports-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup à faire. Mais venez aux Comores, vous allez voir, les droits de l'homme, les libertés, c'est quelque chose de d'idoine. C'est quand même une richesse. Il y a beaucoup à faire, mais dans le cadre de ce pays qui s'appelle le Comores, je peux vous rassurer, la tolérance, les droits de l'homme, c'est quelque chose de fondamental.
Pourtant, on parle de l'arrestation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui a été condamné à la prison à perpétuité de 4 ans et des détentions préventives. Ses avocats, par contre, dénoncent une parodie de justice.
C'est normal, les avocats. Mais est-ce que c'est le seul président du monde qui a été mis en prison, qui a été jugé? Combien de présidents sont jugés? Pourquoi on est en train de stigmatiser ce côté comorien alors qu'on voit dans les grands pays que vous le connaissez comme moi, des chefs d'État ont été condamnés? Mais écoute, personne n'est au-dessus de la loi. Effectivement, il y a des lois comoriennes. Malheureusement, l'ancien président ne les a pas respectées. Mais c'est à nous de tirer les leçons pour que ça serve de leçon pour ceux qui viennent.
Mais pourtant, selon mes informations, il est accusé dans l'affaire des passeports. Ces passeports continuent à être vendus aujourd'hui dans votre pays.
Non, surtout pas. Ça, j'ai arrêté. On ne vend pas les passeports. Le problème des passeports, les gens sont en train de voir l'argent. Ce n'est pas l'argent. Comment aujourd'hui, à une loi, tous les pays du monde, chaque pays a un règlement pour donner la nationalité. Ce n'est pas de l'argent. On respecte. Il était chef de l'État. Pourquoi il n'a pas changé la loi pour la mettre à la façon qu'il veut? Mais il y a une loi qui dit qu'on fait ça. Il prend le passeport du Vabranja. Pour nous, c'est vendre le pays.
Entre-temps, Monsieur le Président, ces passeports ont quand même été vendus. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et ça se trouve où?
Ça, justement, ça, c'est la question. Pour moi, très sincèrement, bon, là, la question, c'est que non seulement il a violé la loi, mais personne ne sait l'argent qui est venu du passeport, où est cet argent-là.
Et les découvertes en ressources gazières, notamment, ont donné beaucoup d'espoir au peuple comorien. Mais au moment où le monde aujourd'hui parle de la transition pour éviter les énergies fossiles, pour lutter contre le réchauffement climatique, comment est-ce que vous comptez vous y prendre?
Ben, je peux vous rassurer que le Comores, on est un petit pays en surface, en population. Et que si on mise sur les énergies renouvelables, ça peut effectivement répondre aux questions énergétiques des Comores.
C'était le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, au micro de Marius Muhunga. Vous pouvez suivre les deux entretiens du président Bazoum du Niger et celui du président Assoumani de l'Union des Comores sur votre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube VOA Afrique. À marge justement de ce sommet États-Unis-Afrique, la diaspora africaine s'est donné rendez-vous devant la Maison-Blanche pour faire entendre sa voix. Le leader de l'opposition au Tchad, Succès Mastra, a participé dans cette manifestation. Il s'exprime au micro de Koy Gwahinga.
Je suis venu ici, comme vous pouvez l'entendre, rejoindre aux panafricanistes, mais je dirais aux combattants de la liberté, du Venezuela au Tchad, du Sud-Soudan en Égypte, etc. La dignité humaine n'a pas de frontières, parce que nous sommes tous créés à l'image d'un être suprême, et la dignité humaine est quelque chose que tout le monde attend. J'ai dû quitter mon pays, le Tchad, parce qu'il y a quelques semaines, mon peuple qui se mettait debout pour exiger le respect par la junte, des engagements qu'il a pris, deux engagements. Un, de remettre le pouvoir à une équipe civile après 18 mois. Et deux, d'organiser des élections démocratiques auxquelles ils ne prendront pas part. Ils n'ont pas respecté cet engagement pris devant l'Union africaine, devant les Nations unies, devant la communauté internationale, mais surtout devant notre peuple et devant même Dieu. Ils n'ont pas respecté cet engagement. Au contraire, ils ont tué, il est sorti plus de 300 d'ailleurs, des cadets qui sont sortis. Plus de 200 sont portés disparus. Plus de 2000 ont été arrêtés. Et moi-même qui vous parle, ils sont venus arrêter aussi des dizaines de mes militants directement dans le ciel qui sont allés tuer, égorger et jeter dans le fleuve. Tout ça montre bien que nous arrivons à quelque chose de terrible avec des circonstances aggravantes que nous avons portées d'ailleurs à l'attention des Nations Unies. Et donc, nous sommes là pour, en tout cas, élever la conscience du monde sur ce qui est en train de se passer au Tchad, pour dire que nous ne devons jamais laisser
je dirais, l'obscurité de la dynastie prend le dessus sur la lumière de la démocratie. Et mon peuple, qui était un peuple jeune, qui est un peuple courageux, qui s'est mis debout pour la démocratie, aujourd'hui a besoin des vrais amis qui vont l'aider d'une certaine manière à accomplir ce que j'appelle le droit à l'autodétermination de notre peuple. Et je me sens d'autant légitime de venir ici porter ce message que moi, je suis le petit-fils de cet tirailleur qui, à un moment donné, ont répondu à l'appel à l'aide des Français, par exemple, pour les libérer du joug allemand. Mais les Américains savent aussi que, par exemple, le général français Lafayette a été utile pour la libération des États-Unis lorsque les États-Unis s'organisaient pour la guerre d'indépendance. Donc, d'une certaine manière, je suis venu ici aux États-Unis pour porter la voix de ce peuple-là qui exige la démocratie, mais aussi pour dire que le Tchad et l'Afrique ont besoin des États-Unis à ses côtés pour ce que j'appelle le triangle de la libération collective. Hier, il y avait le commerce triangulaire. Aujourd'hui, nous avons besoin plutôt de la libération triangulaire, d'une certaine manière. Et donc, les continents peuvent s'entraider, les peuples peuvent s'entraider, les leaders peuvent s'entraider au nom des valeurs communes qui sont les valeurs de la démocratie. Voilà le mobile de mon séjour ici, avec l'objectif de repartir vers mon peuple pour nous battre afin que la démocratie soit la réalité au Tchad.
Succès Mastra, leader de l'opposition au Tchad du parti Les Transformateurs. En RDC, plus de 140 morts. C'est le dernier bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa la nuit du mardi. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a annoncé ce bilan mardi soir, un deuil national de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du pays pour pleurer ses morts. Daniel Asselo a aussi annoncé la décision du gouvernement de détruire toutes les constructions sur les terrains accidentés. Face aux énormes dégâts enregistrés, la société civile réclame des sanctions. C'est dans ce reportage signé Alex Katikatai, notre correspondant à Kinshasa.
Sur des images qui circulent dans les réseaux sociaux depuis mardi en fin de matinée, des scènes de désolation, des maisons inondées, des personnes qui s'accrochent à presque rien pour ne pas couler avec les torrents, des corps sans vie repêchés des eaux et des décombres. Kinshasa est en deuil. Sur instruction du président Tshisekedi, un deuil national de 3 jours est décrété pour pleurer les plus de 141 morts, affirme Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
L'organisation d'un deuil national pour 3 jours. Le Congo est en deuil. L'option vient d'être levée pour que ce deuil-là se fasse à travers des communes. Nous allons fixer des sites, effectivement, pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit.
La ville a connu une pluviométrie anormale en cette seule nuit du mardi, selon la Metelsat. C'est la plus forte pluviométrie en une seule journée de ces 30 dernières années, affirme l'agence dans un communiqué. La Metelsat précise qu'en cette seule nuit, plus de 150 000 litres d'eau sont tombés à Kinshasa. Un record pour une journée. La société civile appelle à des sanctions face aux dégâts énormes enregistrés. Jonas Tombela, de la nouvelle société civile du Congo.
Nous pensons qu'il y a une bonne part de responsabilité de l'État congolais à travers son ministère des Affaires foncières, urbanisme, tous ceux qui s'occupent de toutes ces questions liées au lotissement.
Après une réunion mardi soir entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de Kinshasa, le gouvernement a décidé de la démolition de toutes les constructions sur les terrains accidentés. Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi.
Les chances de voir cette énième décision de destruction des logements anarchiques s'exécuter restent minimes. On observe souvent dans ce genre de situation un bras de fer entre l'autorité provinciale et le gouvernement central. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on responsabilise le gouvernement central. Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
La ville de Kinshasa n'a aucun pouvoir de démolir des maisons sans le visa du gouvernement central. Toutes ces constructions anarchiques sont couvertes par les arrêtés du gouvernement central.
Les obsèques des victimes seront prises en charge par le gouvernement central. Le président Tshisekedi a même écourté son séjour de travail aux États-Unis pour venir faire le deuil avec sa population, affirme la présidence de la République. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de production. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Vous pouvez continuer de nous suivre sur VOA Afrique et sur voafrique.com. Au revoir.